Bonjour et bienvenue dans Nobody Cares, l'émission culturelle des gens qui prennent très au sérieux des sujets dont tout le monde se fout. On est aujourd'hui en compagnie de Max de clap.ch.
Bonjour à tout le monde.
Pour vous parler du dernier volet de film qu'on a vu au NIF 2016. Le NIF, qu'est-ce que c'est ? C'est le Neuchâtel International Fantastic Film Festival qui nous propose donc tout un panel de films fantastiques et de genre. On va revenir sur la dernière volée de films qu'on a vu. Donc, par quel film va-t-on commencer, Max ?
Oui, alors Kryptonita, c'est un film que j'ai vu dans le cadre de la section Eldorado. C'est donc ce panorama du cinéma de genre latino-américain en deux parties. Une, c'est donc les références historiques, donc des films des années 60, 70, 80. Et puis l'autre, c'est justement des productions plus récentes de 2011 à aujourd'hui pour montrer un peu la vitalité justement des productions de genre en Amérique latine. Kryptonita, en l'occurrence, c'est un film qui est sorti l'année passée et c'est la version argentine, plutôt cheap, mais c'est voulu, de la Justice League. Ça tient pas vraiment la route pendant une heure et demie, donc jusqu'à la fin, mais on s'amuse assez bien avec ce film, surtout si on connaît les personnages dont ils font la parodie. Et bon, puis dans Eldorado, je crois qu'on a tous les deux vu un des films qui nous a le plus déçus cette année, celui qui était annoncé comme le film choc du NIF.
Mais gardons ça pour après.
Exactement, gardons ça pour après.
Effectivement, un film qui a réussi à être pire que Downhill. Mais maintenant, commençons par... Personnellement, j'ai vu Creative Control, le 8, oui. Qui est un film de Benjamin Dickinson, dans lequel un type chargé de la promo d'une nouvelle forme de réalité augmentée doit la tester et qui commence à se mélanger les pinceaux entre existence réelle et réalité augmentée. C'est un film qui m'a énormément touchée. Le personnage principal est un petit peu, on va dire, dépressif, entre guillemets. C'est un film qui a beaucoup résonné en moi par plein d'aspects et que je conseille fortement. Je l'ai trouvé visuellement bluffant. Il a été réalisé en partie grâce à Kickstarter et si j'en avais entendu parler, je pense que j'aurais donné parce que c'est vraiment un très beau film. Qui parle de thématiques modernes. J'avais peur que ce soit trop une ressucée de Her.
Ouais,
j'avais très peur vu que les thématiques peuvent être proches, mais non, on oublie très rapidement Her et c'est un film qui est tout aussi touchant que Her, si ce n'est plus, je trouve.
Ouais, moi je suis pas totalement d'accord. Enfin, moi aussi je conseille le film. Moi je dirais, si vous êtes surtout fan de la science-fiction, puis de ce genre de science-fiction là, c'est un film à voir. Personnellement, j'ai trouvé le propos très intéressant, puis au niveau visuel c'est impeccable, mais j'ai pas vraiment accroché ni à l'histoire ni au personnage. Mais ça, c'est un problème à moi. Je comprends parfaitement que d'autres gens peuvent justement accrocher à cette histoire là et justement à ce personnage principal qui est d'ailleurs joué par le réalisateur lui-même,
sauf erreur. Oui.
Donc oui, si c'est le genre de film qui vous intéresse, normalement allez le voir.
Tout à fait. Enfin, allez le voir. Procurez-vous-le sur Internet. Il est en vente.
Il est sorti en VOD aux États-Unis.
Voilà, il est sorti en VOD, donc achetez-le. Il le mérite. Le film suivant que j'ai vu, c'était Girl Asleep, que toi tu avais déjà vu aussi.
Oui, je l'ai vu au début du festival.
Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de Girl Asleep ? Girl Asleep, qui est donc un film de Rosemary Myers.
Oui, c'est un film australien en compétition internationale, tiré d'une pièce de théâtre. On dirait presque du Wes Anderson à l'australienne. C'est un avis que je partage à 100% et j'ai vraiment, vraiment aimé ce film. Il y a justement cet aspect un peu décalé, irréel, qui augmente petit à petit au fur et à mesure pendant le film. Et j'ai trouvé vraiment touchante aussi justement, l'approche de la réalisatrice vis-à-vis du coming of age de cette protagoniste qui doit... un peu bouger dans un monde qu'elle ne connaît pas. Donc, en l'occurrence, une nouvelle école, mais aussi ce monde un peu féerique qui arrive petit à petit.
Alors, personnellement, j'ai pas du tout été accrochée par Girl Asleep. J'ai trouvé justement ce côté Wes Anderson, entre guillemets, beaucoup trop forcé. Là où dans les films de Wes Anderson, ça passe nickel. Là, je trouvais que ça faisait vraiment forcé. Et là pour l'effet de style uniquement. Après, je reconnais les qualités du film. L'histoire est jolie. Les acteurs sont bons. Et visuellement, ça reste sympa, même si pour moi, comme je l'ai dit, trop forcé. Donc je pense que c'est plus moi qui suis passée à côté du film que le film qui est mauvais. Du coup, effectivement, c'est aussi un film que vous pouvez voir, Girl Asleep. Ensuite, on a vu ce fameux film que tu as mentionné tout à l'heure, qui était dans la catégorie Eldorado et qui était d'une qualité... qui était donc introduit comme un frère et sa sœur qui acceptent les étranges rituels d'un homme pour loger chez lui, et qui était écrit dans le catalogue du NIF comme le film choc du NIF 2016. Alors le film choc, c'est clair. Après, en tout cas, le choc, c'est clair. Un film, j'aurais plutôt pensé à une mise bout à bout de scènes de cul et de scènes gore sans trop de fil rouge.
Ouais, alors moi je suis pas complètement
est-ce que j'ai
d'accord.
J'ai dit le titre du film.
Non, c'est donc Tenemos la carne. Moi je suis pas totalement d'accord avec toi. Effectivement, j'ai pas trop aimé le film, mais je trouve pas que ce soit plus mauvais que Downhill. Downhill, ça reste quand même la grosse déception du NIF 2016. Alors parce que Tenemos la carne, au moins il y a un propos, il y a aussi je trouve il y a plus de soins au niveau de la mise en scène. Le problème, c'est qu'au bout d'une demi-heure, ça commence à devenir de la provoque juste pour faire de la provoque. C'est un peu la même chose que j'ai ressenti pendant A Serbian Film, donc ce fameux film qui est sorti en 2010. Donc c'est juste le réalisateur qui se dit à un moment, ok, je peux insérer des trucs hyper crades, hyper choquants, juste pour faire flipper les gens, je vais faire ça. Donc ça
c'est
sert.
C'est même pas flippant, c'est juste dégueulasse.
Ouais, c'est ça. Ça sert pas à grand chose. En plus, faut le dire, sans trop spoiler, la scène finale annule quasiment le propos du film. Donc
tout à fait.
Donc effectivement, grosse déception. Mais si vous avez aimé A Serbian Film, ce qui est bizarre, mais bon, ça arrive. Peut-être que là, vous aurez justement la version sud-américaine et que vous allez apprécier ça aussi.
Voilà, on en revient à la grande, au grand film du NIF de cette année, qui était Swiss Army Man.
Qui a remporté 3 prix d'ailleurs hier soir.
Voilà, tout à fait. On peut citer les prix qu'il a remportés.
Oui, donc il a remporté le prix du public. Donc, c'était le film préféré du public dans le cadre de la compétition internationale. Il a remporté le prix de la critique. Donc, ce jury fait de critiques qui bossent justement pour différentes revues de genre dans le monde entier. Et en plus, le plus curieux, c'est qu'il a remporté le prix pour le meilleur production design, donc en soi les décors et les accessoires, avec la motivation que justement l'accessoire le plus important du film, c'est le cadavre de Daniel Radcliffe. Oui, donc si vous n'avez pas encore compris, Swiss Army Man, c'est ce fameux film dont on parle depuis janvier, où Daniel Radcliffe joue un cadavre qui pète tout le temps. C'est un peu le résumé très simpliste.
Ça. Avec Paul Dano aussi, qui est merveilleux comme à son habitude. Personnellement, c'était un vrai coup de cœur. La salle était en délire et il le mérite. Il est à la fois touchant et drôle. Vraiment, c'est un film que je ne peux que surconseiller.
Oui, en fait, disons que si vous allez voir ce film en pensant ok, c'est juste l'histoire d'un mec qui se retrouve avec un cadavre qui pète, vous allez être surpris, à mon avis, en bien. Puis on peut se dire aussi que peut-être que Radcliffe a fait ce film juste pour se débarrasser définitivement de son image d'Harry Potter, mais bon, ça marche, donc du coup, c'est
voilà,
bon.
Et je pense, justement, vu les qualités du film, je pense pas qu'il l'ait fait uniquement pour ça, parce que c'est un film qui a des vraies qualités, au-delà de casser cette image de Harry Potter. C'est vraiment une très très bonne surprise. Les deux films suivants que j'ai vus, le 9, c'était The Wave, dont tu m'avais un peu parlé, comme étant une version, enfin un film catastrophe version norvégienne.
Tout à fait, ouais.
Qui est un film de Roar Utaug.
Oui. Qui a d'ailleurs été au NIF précédemment, sauf erreur, avec un film qui s'appelle Cold Prey.
Ah, possible, oui. Et le pitch, c'est qu'est-ce qui se passe quand un fjord gigantesque s'effondre ? Bah, un tsunami.
Ouais.
Et donc, ça nous donne un film catastrophe dont je suis sortie au bout de 1h10. Voilà, je ne suis pas restée jusqu'à la fin parce que j'ai trouvé que ça devenait... Ben, visuellement, c'était très bien. J'ai vu le tsunami, c'était magnifique. Ça reste un film catastrophe, du coup, j'ai pas été intéressée plus que tant par l'histoire.
Ouais, alors moi je suis pas tout à fait d'accord. Moi j'ai bien aimé le film. Effectivement, au niveau des personnages, c'est pas très abouti. Il y a notamment, comme j'ai écrit dans un de mes articles, c'est dommage de voir un acteur excellent comme Thomas Boll Arsen. Si vous connaissez les séries télé danoises, vous savez certainement de qui je parle. Il a un petit rôle, enfin un rôle mineur, mais qui est tellement tellement mal écrit que je me demande qu'est-ce qu'il a vu d'intéressant dans le film. Bah peut-être justement l'idée de faire un film catastrophe en Norvège, ce qui n'est pas évident. Et je trouve justement le film comme juste pour comme argument pour prouver que les Scandinaves peuvent aussi faire des films qui n'ont rien à envier à Hollywood, ça marche plutôt bien.
Ah oui, tout à fait, visuellement c'est sans aucun reproche, mais après ça reste, c'est un film catastrophe. Oui. Un bon film catastrophe, mais exactement, ça reste un film catastrophe.
Oui, qui d'ailleurs, le truc le plus curieux, c'est que c'était le candidat norvégien pour l'Oscar du film étranger.
Ok, d'accord, je ne le savais pas. J'ai terminé mon festival avec Parents, de Christian Tavdrup, qui est un film dans lequel un couple un peu usé décide de réintégrer son studio d'étudiants. Et il y a des conséquences spectaculaires, à savoir qu'ils vont rajeunir. Et c'est un film à côté duquel je suis totalement passée. J'y ai trouvé aucune qualité personnellement. Mais voilà, je sais que Max, toi tu as bien aimé, non ?
Oui, absolument. Moi j'ai trouvé le film très touchant, très drôle aussi dans sa réflexion justement sur la vie de couple. Donc là en l'occurrence, c'est donc un couple qui sait plus quoi faire après que leur fils décide de déménager et commencer une nouvelle vie dans son propre appart à lui. Moi, je savais pas grand-chose du film avant de le voir et je dirais la même chose au public. Lisez le moins possible sur ce film avant de le voir, parce que c'est vraiment un des plaisirs de la vision de ces films, c'est justement la découverte des différentes évolutions du scénario au fur et à mesure de la durée du film.
Alors moi, j'ai trouvé toutes ces évolutions complètement nonsensiques, voire offensantes certaines, mais effectivement je ne vais pas spoiler pour laisser la surprise aux gens.
Oui, et puis faut aussi dire que Parents a gagné le prix du meilleur film européen de la compétition internationale, ce qui veut dire qu'il est donc parmi les candidats pour le Méliès d'Or qui sera annoncé au Festival Fantastique à Lund en Suède au mois d'octobre. Et d'ailleurs, on a appris hier justement, comme c'est le distributeur suisse qui a accepté le prix au nom du réalisateur qui n'était pas présent, le film est prévu en salle en Suisse romande au mois de janvier, plus ou moins. Donc si vous avez envie de le voir, il va sortir en salle. Peut-être pas à Neuchâtel, mais en Suisse romande en tout cas.
Et dans longtemps, mais en Suisse romande. Donc attendez de le voir au cinéma. C'est vrai que visuellement, ça peut valoir le coup de le voir au cinéma plutôt que sur un écran de TV ou d'ordinateur.
Et puis, petite précision, Swiss Army Man va aussi sortir en salle. En tout cas, c'est prévu comme c'est acheté par Ascot Elite.
Ah, forcément. Enfin, en même temps, Swiss Army Man, on s'y attendait qu'il sorte en salle.
Ouais, pas forcément. Les derniers films avec Radcliffe sont pas sortis chez nous.
C'est pas faux. Toi, tu as vu des films dont j'ai pas parlé encore, puisque tu as vu beaucoup plus de films que moi.
Donc, oui, alors, le 8, j'ai aussi vu Psycho Raman, qui est donc le nouveau film de Anurag Kashyap, qui était dans le jury international cette année. Un film dont l'élément le plus curieux, c'est justement son origine. C'était censé être un biopic classique de ce tueur en série qui a œuvré en Inde dans les années 60, sauf qu'au niveau du budget, c'était pas faisable. Alors du coup, Kashyap a réécrit le scénario, c'est devenu une histoire qui se passe de nos jours et librement inspirée aussi dans le scénario. On dit que le tueur s'inspire peut-être de ce personnage des années 60. D'ailleurs, au début du film, il a expliqué pendant le Q&A, c'est obligatoire de le dire en Inde, ils expliquent justement qui était ce tueur en série, et puis il a écrit vraiment en majuscule: ce film n'est pas l'histoire de ce mec-là. Donc il faut préciser, ouais, que c'est une adaptation très libre et pas, ouais, un biopic. Et c'est un film, moi je trouvais très glaçant, très tordu. Il y a un peu du Michael Mann dedans avec cette relation entre le flic et le méchant. Et moi je le conseille tout à fait, que vous soyez fan de Anurag Kashyap ou pas. Ensuite, j'ai vu un autre film de Eldorado, c'était OVNIS en Zacapa. Donc cette comédie un peu déjantée où il y a un professeur qui a écrit un bouquin sur les extraterrestres, et donc on lui demande d'être le présentateur d'une émission de une émission de télé-réalité où ils vont interviewer des gens qui auraient eu justement des expériences liées aux aliens dans ce petit village qui s'appelle Zacapa, justement. Là, le film n'est pas tout à fait abouti. Il y a ce côté un peu cynique, sans trop spoiler. Il y a un peu cet élément qu'en fait, les apparitions des aliens dans ce village, ce serait plutôt une arnaque. Sans vous dire plus, mais c'est assez drôle, et puis je trouve, comme la section Eldorado en général, ça prouve qu'il y a une volonté, une ambition, même le talent pour faire du bon cinéma de genre en Amérique latine. Il faut juste avoir les moyens et les bonnes idées pour le faire. D'ailleurs, le curateur de la section Eldorado, c'est notamment Adrien Garcia Boliano, qui est fréquemment invité au NIF, donc on sait très bien, nous qui fréquentons le festival, que le cinéma de genre existe en Amérique latine. Il faut juste faire en sorte qu'il soit visible en dehors du pays d'origine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, j'ai vu Soul Station, qui est donc ce dessin animé coréen qui a beaucoup fait parler de soi. C'est donc un dessin animé sur une invasion de zombies à Séoul, justement, en Corée du Sud. À partir d'un... En fait, c'est un sans-abri qui arrive à la gare. Il a été mordu, on ne sait pas par qui ou par quoi. Et à partir de lui, il y a justement cette épidémie qui va se propager un peu partout dans la ville. C'est pas hyper original, comme c'est un film de zombies, on en a vu une centaine depuis 1968, quand Romero a inventé le zombie que l'on connaît aujourd'hui, donc le monstre cannibale. Mais c'est quand même très inventif au niveau visuel. Au niveau du gore, il y a quand même des choses plutôt sympas. D'ailleurs, le présentateur a fait une blague, il a dit que dans Soul Station, il y a plus d'inventivité en 90 minutes de Soul Station qu'il y a eu en 6 saisons de The Walking Dead.
Ce qui n'est pas forcément dur.
Non, n'est pas forcément surprenant vu que The Walking Dead s'inspire beaucoup à Romero, justement. Ensuite, le 9, j'ai vu aussi Bitcoin Heist, qui est donc un film de braquage vietnamien. C'est donc une sorte de Ocean's Eleven vietnamien. Sauf que là, on va pas voler de l'argent à proprement parler, mais plutôt des bitcoins. Donc on parle de monnaie digitale, voilà. Ce qui est assez curieux comme concept. Il y a donc du Ocean's Eleven, et il y a aussi, là aussi l'a dit le présentateur, il y a une scène qui est totalement du plagiat du premier Mission Impossible, celui de Brian De Palma. Évidemment, sans payer les royalties, mais c'est très drôle, on s'amuse, c'est très divertissant, on s'amuse beaucoup pendant les 2 heures que dure ce film. Ensuite, j'ai vu aussi dans Films of the Third Kind, j'ai vu Blind Sun, qui est donc cette production française et grecque, donc ça se déroule en Grèce.
Alors, je l'ai vu aussi, Blind Sun.
Et il y a de la pénurie d'eau, donc moi j'ai trouvé ce film très fascinant, il y a une ambiguïté qui reste en place jusqu'à la fin, je trouve la fin absolument magnifique. Peut-être un peu long, même si ça dure qu'une heure et demie en fait, mais
voilà.
Mais c'est très fascinant. Si en plus, je trouve, il y a des propos quand même assez intéressants au niveau de la situation actuelle en Grèce.
Tout à fait, oui. Ouais. Moi, c'est pas un film qui m'a accroché, Blind Sun, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans un podcast précédent.
Peut-être.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres films dont tu veux nous parler?
Ah oui, alors j'ai fini avec 2 films. Donc un, c'est Alois, un film suisse, donc dans la section Amazing Switzerland, qui a été créée cette année pour c'est donc une section permanente qui veut montrer justement le cinéma de genre réalisé en Suisse. Et oui, il y a du cinéma de genre en Suisse. Si vous fréquentez le NIF, vous aurez sûrement vu Chimère d'Olivier Béguin il y a 3 ans.
Et donc, si vous ne fréquentez pas le NIF, voyez Chimère d'Olivier Béguin.
Absolument. Et donc, Alois, c'est donc un film sur un détective privé. Il est passé à Berlin, d'ailleurs, il a gagné le prix de la critique internationale, sauf erreur. C'est donc l'histoire de ce détective privé qui perd... il y a son père qui décède. Et puis lui, il commence à avoir cette relation un peu bizarre par téléphone avec une des personnes qu'il est censé surveiller au nom d'un de ses clients. Il y a de l'onirisme, il y a de l'humour un peu bizarre, il y a surtout cette atmosphère très grise avec du brouillard et de la pluie quasiment tout le temps. C'est très fascinant, moi je le conseille vivement. D'ailleurs, comme on l'a vu dans une copie sous-titrée en français, en principe ça devrait sortir en Suisse romande, donc si c'est le cas, allez le voir. Et ensuite, j'ai fini avec le film de clôture qui était The Handmaiden, le nouveau film de Park Chan-wook, donc le réalisateur de Old Boy, Stoker et First. Donc là, c'est un thriller érotique qui a été présenté notamment en compétition au Festival de Cannes il y a 2 mois à peu près. Et donc, moi j'ai beaucoup aimé ce film, c'est vraiment l'énième confirmation du talent de Park Chan-wook, autant au niveau visuel qu'au niveau de la direction des acteurs, de la construction de l'intrigue. C'est un film en 3 parties, ça dure 2h20, et c'est donc la relation un peu tordue entre une femme au Japon, sa femme de chambre coréenne, et ce mec mystérieux, un conte qui essaye de la séduire. Donc il y a ce triangle un peu tordu. Bah, c'est Park Chan-wook, donc ça va forcément être tordu. C'est un peu long des fois, surtout que comme c'est un film qui explore les points de vue différents, il y a certaines scènes où tu t'es dit « Ok, j'avais pas forcément besoin de voir l'autre point de vue, on avait déjà compris. » Mais ça reste un film... très fascinante, très aboutie. Si vous êtes fan de Park Chan-wook, allez le voir, absolument.
Voilà, donc c'est tout. Maintenant, on va faire un rapide top 5 de nos films préférés.
Oui.
On va juste citer les titres.
Ouais.
Pour moi, mon top 5, avec une hésitation sur l'ordre, mais ça sera en 5e position, Fear Itself, un documentaire de Charlie Lyne.
Ouais.
Dont on vous a parlé dans le 2e épisode. The Transfiguration, un film de Michael O'Shea dont on vous a parlé dans le 2e épisode également. Creative Control, dont on vous a parlé aujourd'hui, qui est donc de Benjamin Dickinson. Desierto, de Jonas Cuaron. Jonas Cuaron. Et pour finir, Swiss Army Man, qui remporte tout et qui est un film de Daniel Scheinert et Dan Kwan.
Ou, comme ils disent dans le générique du début, les Daniels, tout simplement.
Voilà, tout à fait.
Alors, moi, mon top 5, c'est plutôt en 5e position. Ce sera L'Okiamava no Jigorobo de Gabriele Mainetti. D'ailleurs, je me permets de faire un peu de pub. Je vais publier une interview avec lui sur clap.ch. Donc, si vous avez vu le film ou si ce film vous intrigue, lisez cette interview parce que c'est très intéressant au niveau aussi de la situation du cinéma de genre en Italie. Ensuite, en 4e position, ce sera plutôt Desierto de Jonas Cuaron. En 3e, Parents de Christian Tafsdrup. En 2e, Girl Asleep de Rose Myers, sauf erreur. Et premier, donc ce sera Trash Fire de Richard Bates Jr. qui n'a rien remporté au palmarès.
Je suis très contente que tu le cites dans ton top 5 parce qu'il a presque été dans le mien.
Oui, donc il n'a rien remporté au palmarès, ce qui est un peu dommage, mais... ça reste un film absolument éblouissant. Allez le voir si vous en avez l'occasion.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc sur ce, on peut clore ce numéro, cette aventure sur le NIF. Merci ouais. Max d'avoir été parmi nous.
Merci de m'avoir invité.
Mais de rien, j'espère qu'on pourra remettre ça l'an prochain. Ciao,
ouais,
ciao.
On espère. Ciao.
Au revoir.
Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.
En direct et avec vous, grâce au hashtag Passe le Stick.
Bonsoir et bienvenue dans Passe le Stick, l'émission qui va bientôt prendre des vacances.
Pas de faire bien mérité, parce qu'on est en train de faire des
vacances. S'il vous plaît, ça ne va pas le faire. On ne pourra pas faire tenir un Passe le Stick en 20 secondes. Alors ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est de nous écouter tous les lundis dès 21h pour plus d'une heure d'actualité jeux vidéo en direct sur Radio Kawa. Et là au moins, on devrait avoir le temps.
Tout à fait.
Merci, Pico.